Bonjour et bienvenue dans Féminis Santé, le podcast qui parle féminisme et santé. À l'occasion de cette rentrée, j'aurais voulu revenir sur des événements qu'il y a eu il y a quelques mois et qu'on aurait presque pu appeler le MeToo et tout de kiné. J'ai longtemps hésité sur la manière dont je voulais aborder ce thème. Pour rappel, il s'agissait d'appels à témoignages lancés sur les réseaux sociaux, notamment par Tessadi, Asaoui et d'autres personnes, dont moi-même. Ces appels à témoignages tenaient notamment à mettre en évidence les différents actes répréhensibles au sein des IFMK. Pour rappel, les IFMK, c'est les instituts de formation en masso-kinésithérapie, et notamment les violences sexistes et sexuelles de la part de membres de l'équipe pédagogique ou encore d'autres étudiants. L'idée n'était pas de revenir un à un sur la plus de centaines de témoignages qui ont afflué, et il a donc fallu réfléchir à la manière dont on voulait aborder ce thème. Ainsi, j'ai pris contact avec les membres de l'équipe pédagogique de l'IFMK de Grenoble, car j'avais entendu parler de leur charte du consentement. Lire cette charte a été la première étape de la construction du témoignage que je vais vous apporter aujourd'hui. L'idée, ça va d'avoir être un exemple des différentes solutions qui peuvent être mises en place pour essayer d'améliorer au maximum les relations dans les instituts de formation, et éviter justement que se reproduisent les expériences qu'il y a eu. Pour rappel, il y avait notamment des demandes de soumission avec des cobayes femmes, des humiliations physiques, grossophobes, des critiques de sous-vêtements, l'absence bien évidemment de consentement, mais également des messages équivoques sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on améliore la note si jamais on va boire un verre, sujet d'examen contre photos dénudées, etc., etc., mais encore plus graves, telles que des agressions sexuelles ou encore des sentiments d'impunité avec des personnes qu'on ne peut pas dénoncer car trop précieuses au sein de l'académie ou autre. J'ai ainsi pu contacter Sarah Eve grâce à une étudiante de l'université de Grenoble qui faisait son mémoire notamment sur le consentement. Elle m'a donné le contact et nous avons pris connaissance. Nous avons pu parler justement de comment a été mise en place la charte de l'IFMK de Grenoble, quels ont été les tenants, les aboutissants. Et je remercie encore une fois Sarah Eve d'avoir pu répondre à mes questions. Et j'espère que cela pourra vous servir d'idée pour mettre en place les mêmes choses si vous faites partie d'une équipe pédagogique d'un IFMK, pour pouvoir la contacter ou autre, que cela puisse vous aider. Je vous laisse avec l'entretien et puis on se retrouve tout à l'heure.
Alors déjà, merci d'avoir accepté que je puisse t'interviewer pour mon podcast. Si tu veux bien, je vais déjà juste commencer par te demander de te présenter, dire un peu qui tu es et ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de l'apprentissage du consentement et du respect de celui-ci dans les instituts de formation.
Merci à toi pour l'invitation. Donc moi, c'est Sarah Graham-Longsworth.
Moi, je suis kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale en clinique. Et puis après, je fais de la recherche plutôt sur le contexte de soins, disons, et le placebo au départ. Et puis petit à petit, je me suis orientée plus sur les questions de consentement aux soins. Et je suis enseignante au département de kinésithérapie de l'université de Grenoble.
Ouais, donc ça, c'est qui je suis un peu, et du coup, il est apparu de façon évidente pour moi, mais aussi c'était une réflexion collective au sein de l'équipe au département de kinésithérapie, que on peut difficilement interroger et enseigner la question du consentement aux soins auprès des patients et patientes si, par ailleurs, dans leur formation, c'est pas quelque chose qu'on adresse et qui est central aussi dans leur rapport au corps au moment de la formation, puisque le corps va être aussi un outil d'apprentissage dans la formation en kinésithérapie. Donc c'est à la fois une réflexion personnelle et à la fois une réflexion en équipe qui a amené à la création de cette charte du rapport au corps qu'on a fait au département.
Et du coup, c'était le fait de créer une charte, c'était quelque chose qui semblait évident, histoire de cadrer un peu la chose.
Je ne sais pas si c'était évident. On avait envie de réfléchir à quelque chose qui soit pas nécessairement le règlement intérieur en lui-même, qui serait très descendant de la part des profs qui disent comment on doit faire, mais plutôt que la charte, elle répondait un peu plus à notre objectif de co-création avec les étudiants et les étudiantes. Et donc, en ce sens, la charte, elle faisait plus de sens pour nous.
Ok, ouais, bah justement, c'était un peu ma prochaine question. C'est, tu disais qu'elle a été co-créée, et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu en détail justement sur comment elle a été co-créée, par qui, dans quelle mesure ça a été fait
Eh bien, alors donc, elle a été créée sous l'impulsion de l'équipe pédagogique plutôt, de quelques personnes de l'équipe pédagogique qui ont eu envie de s'y atteler sérieusement. Mais je trouve ça intéressant quand même de dire qu'à la fois, ça venait des étudiants et des étudiantes qui avaient un besoin. Nous, on avait l'impression de percevoir, parce qu'il y avait eu des problématiques, un besoin de clarifier le rapport au corps dans la formation, mais aussi ça venait de la part des profs qui, en fait, voulaient pouvoir cadrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire en tant qu'enseignant aussi. Et donc après, en termes de comment on l'a mis en place, c'est un processus qui a duré à peu près une année, durant laquelle on s'est retrouvés, donc on a créé un espèce de groupe de travail composé de trois enseignantes et enseignants et 17 élèves. J'utiliserai le terme élèves parce que étudiants et étudiantes, je radote en disant le féminin et le masculin.
Ouais, ça va faire un peu longuement, c'est bon.
Donc élèves, c'est pas pour dire qu'ils sont plus jeunes, simplement pour faciliter la parole. Et donc on a eu une première réunion pour un peu débroussailler qu'est-ce qui était les besoins de tout le monde autour de cette charte, sachant qu'on avait invité les élus. Donc les étudiants élus, et puis on avait invité qui voulait participer en disant que c'était dans ce processus, enfin c'était un processus de création d'une charte. Et puis après on a divisé par promotion des petits groupes et on a fait des temps de travail plus individuels en plus petits groupes avec quelques élèves de chaque promo pour pouvoir amener des problématiques qui leur étaient spécifiques. Et donc après, on a fait des allers-retours avec donc tous les élèves de chaque promo ont pu lire la charte. Et donc ça, c'était le petit groupe qui gérait les allers-retours avec sa promo. On a fait aussi intervenir des vacataires qui ont été choisis. Trois vacataires, dont deux ont été choisis par les élèves pour qu'ils lisent la charte et nous disent s'il y avait des éléments à changer, quelles étaient leurs idées, s'il y avait des choses qui elles pensaient qu'il était important de faire apparaître. Et ensuite, nous, les trois enseignantes, on participait, enfin, on faisait la même chose, les allers-retours avec l'équipe pédagogique vers ce groupe. À chaque fois, on revenait en groupe on était 20, pour prendre les décisions, écrire la charte en elle-même, et mettre tous les éléments qui nous semblaient importants dans cette charte. Voilà. Donc ça, c'était un peu le processus de création.
Ouais, c'est bien parce que du coup, c'est vraiment un vrai groupe projet en fait, sans hiérarchie et sans. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est vraiment de la vraie co-création dans le sens large du terme.
C'était l'objectif. Après, je le fait, on était des enseignants de l'IFMK et qu'on amenait autre chose. On a travaillé fort à ce que notre posture ne soit pas celle d'enseignant quand on était pendant ces groupes de travail, parce que difficile de travailler, enfin, de parler de consentement si on est dans des rapports de domination très grands. Mais il n'empêche qu'à la fin, on avait quand même une posture qui, malgré tout, était celle d'enseignant. Donc, on a fait de notre mieux pour que dans nos façons d'aborder le travail, ce soit le moins possible central. Et c'est pour ça qu'on avait envie qu'à chaque fois, on revienne vers ce groupe qui prenne les décisions. Mais bon, il n'empêche qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas complètement effacer, tout de même.
Ouais. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux vite fait un peu aborder les points du coup qu'il y a dans cette charte pour ceux qui l'auraient jamais vue, enfin, ça ne doit pas être l'unique charte du consentement des étudiants, mais un peu globalement, qu'est-ce que vous avez surtout voulu parler, les grands points que vous avez voulu aborder avec les étudiants, étudiantes.
Eh bien, le point central autour de cette charte, c'est le fait qu'on a besoin du corps comme un outil d'apprentissage, puisque pour celles et ceux qui sont pas hyper familières avec la formation de kiné, ben en fait, les élèves vont manipuler entre eux. Donc en fait, il y a le corps qui est le corps de chacun et chacune va être utilisé comme un outil d'apprentissage. Donc, il y avait vraiment cette idée de se rendre compte que l'outil d'apprentissage est hyper important, mais qu'il n'empêche que ça reste le corps de quelqu'un d'autre et que ben, comment on gère ça? Donc, en fait, le point central avec ces deux besoins, c'était la question du consentement, qui, notamment, après des éléments très pratico-pratiques du coup sur le fait que on demande le volontariat systématique en tant que bah, si par exemple moi en tant qu'enseignante je demande un volontaire plutôt que de dire Gertrude viens ici j'ai besoin de faire une mobilisation de la hanche par exemple donc demander le volontariat demander systématiquement et expliquer qu'est-ce qui va être fait avant de faire les choses. Sur le corps de quelqu'un d'autre, du coup, ça semble un peu évident quand on est en dehors de cette formation, mais c'est pas quelque chose qu'il était temps. Et puis après, chez nous, il y avait la question de la tenue qui était beaucoup revenue, donc le fait que c'était important d'être dans une tenue qui était adaptée, de pas se changer en plein milieu de la classe. Donc ça, c'était quelque chose qui était revenu à la fois de la part des profs et à la fois de la part des élèves. Donc on a fait apparaître ça. Et puis globalement, c'est une charte qui a un objectif de considérer le corps de l'autre non pas comme un objet, mais comme le corps de quelqu'un d'autre. Et donc à la fin voilà, dans cette idée que on en a besoin pour apprendre, mais que le corps de ton camarade n'est pas à disposition.
Ouais, tu me parlais notamment qu'il y avait, on dit plutôt sujet plutôt que dire il me faudrait une hanche, on dit plutôt ben, j'aimerais un sujet pour tel et tel.
Bah ça, c'est l'exemple même de quelque chose qui venait des élèves et pas de nous enseignants parce qu'on s'était pas rendu compte que ça posait problème en soi. Et c'était quelque chose d'assez, qui était demandé de la part des élèves.
Et du coup, au niveau de la création de la charte, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou pas spécialement?
Ben oui, quand même, ce serait mentir que de dire non. Comme j'ai l'impression, quand on parle de consentement aux soins, on retrouve un peu les mêmes freins moi, les personnes avec lesquelles j'ai le plus été en relation sur des discussions, c'était avec l'équipe pédagogique. Et il y avait des personnes dans l'équipe pédagogique qui considéraient que c'était peut-être pas nécessaire ou peut-être voire dangereux un peu dans cette idée que si on laisse la possibilité aux étudiants et aux étudiantes de dire non et qu'on respecte systématiquement le refus, que les ben on puisse plus utiliser le corps comme un outil d'apprentissage parce que plus personne ne voudrait se dévêtir, par exemple. Alors que la position d'une partie de l'équipe, c'était à l'inverse de considérer que si on rend le cadre le plus sécurisé possible dans l'apprentissage, et ben que à l'inverse, les personnes vont se sentir plus à l'aise de se dévêtir. Donc on a eu pas mal de discussions. J'en discutais encore la semaine dernière avec un collègue qui me disait que ça l'avait amené aussi à interroger quels étaient les espaces dans lesquels le consentement était quels étaient les espaces dans lesquels. Et lui, ce qu'il me disait, c'était à partir du moment où j'ai pas touche pas un corps, ben en fait il y a des espaces de consentement où on reste enseignant et que ben pas besoin du consentement de tous les élèves pour changer un cours d'horaire par exemple. Et que du coup c'était une des choses qui était intéressante dans le ce que ça a permis, en fait, les discussions. Mais pour le coup, ça, il y a eu des freins, notamment, et le plus gros était lié au fait qu'on acceptait et on respectait systématiquement le refus.
Ouais, c'était la peur que du coup plus personne ne veuille être sujet. Sachant que tu me disais bien, la charte, elle n'a pas de valeur juridique, c'est uniquement à titre d'information, à titre voilà, qu'il n'y avait pas de valeur juridique par rapport à ça.
Non, bah, en tout cas pas à ce jour, parce que ça, on pourrait réfléchir aussi à introduire dans un règlement intérieur, par exemple, qui rendrait. Enfin, y a des choses à réfléchir là-dessus. Nous, ce qu'on a au département de kiné à Grenoble, c'est pas le cas.
Ouais.
Mais ça me semble pas être impossible.
Non, au contraire, ça pourrait être bien, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une manière d'uniformiser ça, même au niveau national, de le rajouter dans des potentiels règlements intérieurs, même s'ils sont encore individuels selon les écoles. Et du coup, vous avez mis aussi un peu d'autres choses en place au-delà de la charte. C'est notamment, tu me parlais aussi du TP0. Et est-ce que tu peux revenir un peu dessus, ce qu'il en est?
Oui, et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici aujourd'hui à parler avec toi de ça, parce qu'en fait, le processus de la charte, on n'a pas juste une charte du rapport au corps, on a aussi mis plein de choses en place autour. Enfin, il y a ce TP0 qui émane, enfin, d'une demande des élèves, notamment de L2, qui donc, viennent de rentrer en formation en kinésithérapie. Donc, on fait un TP0 où l'objectif, c'est de présenter cette charte et donc, d'une certaine manière, que chacun et chacune qui rentre dans sa formation ait entendu parler du consentement avant même de commencer les TP. Et on explique vraiment comment vont se passer les TP, qu'est-ce qui est attendu, en quoi est-ce que le leur et celui de leurs camarades devient un outil d'apprentissage, et comment on travaille à toujours faire attention. Et donc on a mis en place ça cette année parfois, et il semblerait que ça a été plutôt bien accueilli, parce que, ben, comme dans toutes les élèves arrivent, on ne sache pas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va leur demander de se déshabiller, enfin voilà. Donc ça, c'est le TP0. On a aussi mis en place des étudiants et étudiantes relais qui ont pour objectif de faire le lien entre l'équipe pédagogique et les vacataires et les étudiants et étudiantes sur des thématiques en lien avec la charte. Donc s'il y avait une difficulté, une problématique, par exemple un enseignant ou un vacataire qui ne saurait pas que on demande à ce que systématiquement des volontaires, ça pourrait être eux, les étudiants relais, qui soient viennent nous voir, on parle directement avec l'enseignant vacataire en lui expliquant simplement que c'est ce qu'on a mis en place maintenant.
Ouais, un peu comme des
Oui.
lanceurs entre guillemets des lanceurs d'alerte qui fait que on facilite un peu le fait d'en parler, de parler soit à l'équipe, soit enfin c'est pas directement de l'étudiant étudiante qui a eu un souci envers le vacataire, le prof, la prof, etc. Mais c'est via ces étudiants relais qui font un peu tampon entre tout ça.
Cette charte, on l'a mise en espérant qu'elle soit investie et respectée de la part de tout le monde, mais on sait que peut-être que ce ne sera pas le cas. Et donc, on a aussi réfléchi à, si ce n'est pas le cas, quelles sont les façons, enfin, quels sont les modes de communication qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'on a pensé à ces étudiantes relais en se disant que ce pourraient être ces personnes qui feront le lien si jamais il y avait des difficultés ou des problématiques rencontrées
Et
pendant les TP notamment.
c'est presque ça qui est encore plus, encore mieux, c'est en fait la charte, ça permet de donner un cadre, mais vous avez aussi songé au bah, qu'est-ce qui se passe quand ça sort du cadre? Et c'est justement ça ce qui est bien, parce que du coup, après, ces étudiants et étudiantes relais, potentiellement, ils peuvent après rentrer en relation, je sais pas, avec les cellules des violences sexistes et sexuelles des universités, ou s'il devait y avoir des soucis de ce type-là, par
Oui, tout à fait.
exemple. Et du coup, ça
Oui,
permet aussi
tout à fait.
d'avoir une libération de la parole qui est un peu plus facile sur ces sujets-là que d'en parler directement à une équipe pédagogique avec laquelle on a forcément plus d'appréhension ou plus de problématiques à se confier, quoi.
Donc, c'est aussi l'idée de les renvoyer, enfin de pouvoir aussi les renvoyer vers la cellule. Bah, nous, à l'UGA, il y a une cellule VSS et donc on est en lien aussi avec eux. On a aussi réfléchi à si jamais ça se passait pas aussi bien que ce qu'on espère.
Et on espère que ça se passe bien plutôt pour éviter justement de devoir sortir de ce cadre-là. Et du coup, est-ce que tu as déjà pu avoir des retours de la part des étudiants par rapport à tout ça, par rapport à ce qui a été mis en place autour de cette charte justement? Est-ce que vous avez déjà... C'est la première année, donc je pense pas qu'il y a encore le... Enfin, tu me disais, il n'y a pas encore le constat général, mais est-ce qu'il y a déjà quelques retours de quelques étudiants ou de quelques enseignants d'ailleurs
Et ben, effectivement, bah, comme tu dis justement, on est sur la première année, donc on va faire là à l'après les examens, donc on attend un peu, mais on va faire des retours collectifs pour bah, justement discuter s'il y a des éléments à changer dans la charte. L'idée, c'est de pouvoir y revenir si jamais faire une autre version, s'il y a des éléments qu'il faut changer, ajouter, s'il y a eu des difficultés pendant cette année. Des retours qu'on a globalement, ce que je trouve quand je parlais de cette charte, elle a infusé dans plein d'espaces, c'est que vraiment dans les enseignements et la manière dont les enseignants abordent les TP, je pense à une collègue qui faisait le TP de morphostatique qui posait beaucoup de problèmes parce que dans la façon dont c'était mené, il y avait des étudiants et des étudiantes qui se sentaient pas du tout confortable à être dénudé, enfin, en sous-vêtements devant 20 camarades. Et donc, cette charte, au final, elle lui a aussi permis de réfléchir à ben, concrètement, dans ce TP, comment faire pour que ce soit plus confortable. Et donc, il y a eu plein d'espaces où, en dehors de juste la question du consentement, il y a aussi la question de rendre le plus confortable possible. La formation dans cette question du rapport au corps de manière générale. Et donc j'ai l'impression que plutôt de la part des élèves, on a des retours assez positifs. Il y en avait certains qui craignaient que ça prenne trop de temps de demander. Et au final, sur le plan pédagogique, c'est hyper intéressant de ne pas bah, se jeter sur un membre inférieur, mais d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Et du coup, de faire cet exercice-là, c'est aussi intéressant. On a eu des retours plutôt positifs des L2, donc les premiers qui ont eu le TP0, qui ont vraiment apprécié en tout cas le fait arriver un peu plus sereinement à ce premier TP. De la même manière que la maquette de formation, nous on a fait le choix de ne pas faire la palpation du pubis en premier TP de l'année parce qu'on se disait que c'était pas adapté, notamment dans cet apprentissage du rapport au corps, le sien et celui de l'autre. Le premier TP, donc on a inversé les différents modules et le premier TP c'est la palpation de l'épaule. Donc ça permet aussi en termes de progression, aussi prendre le temps pour chacun et chacune de s'habituer au format du TP avant de commencer avec ça. Donc ça a été une des choses, par exemple, qui a été actée aussi en lien avec cette question du rapport au corps. Et donc on a des retours positifs plutôt des L2. Certains me disaient ben on a du mal à imaginer que ça puisse qu'il y ait des ça soit si récent en fait que cette charte n'ait pas été toujours présente. Et puis de la part des étudiants et étudiantes qui sont un peu plus âgés au final, enfin plus en L3 M1 au final c'est on n'a pas une un, On a une transformation des pratiques qui, quand même, est présente depuis plusieurs années, avant même cette charte. Question du consentement, dans l'équipe, on en discutait. C'est simplement que là, on l'a vraiment mise sur papier pour que ça nous donne d'autant plus envie, en tant qu'enseignants et enseignantes, de faire encore mieux dans notre rapport au corps des élèves, quoi. Donc, ça, pour le coup, j'ai l'impression de ce que j'en ai. De ce que j'en ai entendu, moi, j'en ai que des retours positifs, mais on n'a pas, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas complètement fait les bilans collectifs. Et puis c'est sûr que pour moi, cette charte, elle fait sens. Donc, en fait, aussi j'ai les retours des élèves qui en sont plutôt ravis.
Oui, bien sûr. Bah après, affaire à suivre du coup pour si jamais vous allez faire une enquête un peu de satisfaction entre guillemets. Mais en fait, c'est hyper intéressant aussi parce que dans ce que tu dis, le fait de c'est hyper pédagogue de devoir expliquer à chaque fois pourquoi est-ce qu'on va palper l'épaule, la hanche, etc. En fait, au final, c'est ce que les élèves ils vont devoir faire dans leur quotidien en tant que professionnel de santé, en tant que kiné avec le rapport au corps qui va avec. Donc, ça permet aussi d'implémenter directement ben, les bonnes pratiques qui vont être nécessaires après et d'office de donner bah, les bonnes habitudes, quoi. Donc, d'un côté, c'est bénéfique dès le début, quoi.
Oui, bien sûr, moi j'ai du mal à croire que si pendant 4 ans de la formation, jamais il leur a été demandé d'expliquer puis de demander s'il était possible de toucher le corps de leurs camarades en arrivant en tant que kiné que ce soit en structure, en libéral, peu importe, interroge ça aux patients et aux patientes. En fait, comment est-ce que enfin, ça me semble impossible que ce soit qu'il y a un tel switch entre la formation et le milieu professionnel. Donc moi, je me dis que si on systématise ça au sein de la formation, bah, c'est sûr qu'après, ça sera beaucoup plus facile de mettre en place, comme tu le disais justement, bah, le fait que la personne demande le consentement. Et demander le consentement, c'est bien évidemment pas juste je peux, mais expliquer qu'est-ce que je vais faire et est-ce que du coup je peux faire ce que je viens de vous décrire. Donc en fait, ça me semble un peu évident.
Ouais, bah oui, puis même ça semble être un peu la base. Enfin, comprendre le consentement, ça passe aussi par comprendre le fait que nous, en tant qu'étudiants ou anciens étudiants, ou etc., il y a un consentement à donner avant de se faire toucher, avant de toucher et avant de faire quelques manipulations, slash exercices, slash quoi que ce soit. Et du coup, est-ce que par rapport aux personnes qui souhaiteraient mettre ça en place dans leurs instituts de formation, alors que ça soit en kinésithérapie, que ça soit en IFSI, même en fac de médecine, j'en sais rien, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner un petit peu par rapport à ça? Est-ce que... ouais.
J'ai l'impression que mon conseil principal, ça serait d'essayer. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on ait fait tout juste et je pense qu'il y a plein de choses que si c'était à refaire, j'aimerais faire autrement. Mais on a pris du temps et ça, je pense que c'est hyper important. Ça a vraiment pris une année scolaire, en fait. On a pris du temps et on a essayé de l'adapter vraiment à notre formation à nous et à nos besoins, que ce soit les nôtres en tant que prof ou en tant qu'étudiant, étudiante. Et donc je pense que ce qui est important pour moi, c'est de prendre du temps, d'essayer de créer de mettre en place un processus pour créer une charte, par exemple, mais ça pourrait être un autre format, c'est pas obligé que ça soit une charte. Et en fait, je pense que de placarder une charte, bah, en fait, c'est un peu comme du papier peint, ça sert à pas grand-chose, si ce n'est être un peu moche et prendre la poussière. Donc vraiment, pour moi, c'est ça qui va être hyper, enfin que je trouve hyper important, c'est de ne pas juste imposer une charte, mais de la créer en fait, et de la co-créer avec l'équipe enseignante et les élèves. Ça serait mon conseil. Après, en termes très pratiques, moi, je pense que j'aurais aimé ou que je conseillerais d'avoir une tierce personne qui peut-être ne fait ni partie de l'équipe PEDA, ni partie des élèves et qui peut-être est même pas, enfin, fait même pas partie de l'IFMK pour pouvoir peut-être aider dans de la médiation, dans de la synthétisation. Je me suis dit que ça aurait été peut-être intéressant lorsqu'on a eu des difficultés, de rappeler que ben, si on a pris la décision, que le cadre et l'espace décisionnel, c'est ce groupe de travail qui a été créé, ben, qu'il y a une personne extérieure qui puisse rappeler ça quand Bah, si jamais c'est pas le cas ou c'est pas suffisamment respecté, ou si jamais la posture des enseignants elle est pas suffisamment horizontale, enfin voilà. J'ai l'impression que ça serait un des éléments que je pourrais peut-être conseiller, et que si c'était à refaire, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit là.
Et du coup, cette personne, ça pourrait être même pas forcément enfin, un ou une kiné, ça pourrait être quelqu'un, même pas forcément, ça se trouve, hein, dans le soin, ça pourrait être même un patient témoin, ou ça pourrait être un médiateur en santé, ou ça pourrait être, je sais pas, quelqu'un qui ferait un audit sur le consentement dans les écoles de kiné. Enfin, c'est vrai que c'est, pour le coup, on peut aller hyper large sur les notions de tierce personne pour justement garantir cette horizontalité. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir pour le coup un trépied sur ce sujet, ouais.
Et puis la seule contrainte, c'est que la personne, elle comprenne bien l'importance du corps dans la formation. Et je pense que c'est simplement ça où moi j'avais réfléchi aux plannings familiaux en fait de Grenoble, en me disant peut-être que ça pourrait être des personnes qui seraient, en tout cas sur les questions de consentement, seraient formées. Et mon inquiétude et puis après sur des questions logistiques aussi, je me suis dit ben lançons-nous et on verra. Mon interrogation, c'était d'être bien sûr que la personne, elle comprenne l'importance, parce que c'est particulier quand on en parle à des personnes extérieures au monde de la kinésithérapie. C'est quand même particulier de autant avoir de besoin du corps des camarades pour pouvoir tester de façon aussi régulière. Donc, je pense qu'il y a juste cet enjeu-là à être bien compris, mais sinon, effectivement, ça peut être une tierce personne de plein d'espaces différents. Enfin, voilà, ça serait, je pense que c'est un trépied qui peut être intéressant.
Ouais, et du coup, ça ouvre bah, sur plein de choses aussi. Et puis, il n'y a plus qu'à espérer que ça infuse au maximum dans toutes les IFMK, dans toutes les écoles de santé de manière générale, quoi. Et ben, voilà. Et ben, merci beaucoup, du coup,
Merci à toi.
d'être revenu là-dessus. Donc, ça m'a fait super plaisir de pouvoir, enfin, d'avoir eu ton contact déjà. Donc, je peux remercier Camille, l'étudiante. Qui m'avait donné ton contact et puis ben, je te tiendrai au courant du coup de quand la diffusion. Est-ce que si jamais j'ai des personnes qui viennent me contacter par rapport à ça, est-ce que éventuellement je peux t'en parler et si tu es
Je
d'accord,
peux donner
voir.
directement mon contact en fait, si
Ouais.
les gens te demandent.
Ben carrément, ouais, ok, ben, si tu veux, ouais, ce serait top.
Comme vous venez de l'entendre, du coup, avec Sarah-Ève, on est revenu un peu sur le processus de création de leur charte, mais également tout ce qui a été mis et créé autour de cette charte à l'IFMK de Grenoble. Si jamais vous souhaitez la joindre, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse directement vous donner ses coordonnées. Ce qu'elle me précisait aussi, mais qu'on n'a pas eu le temps, enfin, qui était en dehors de l'enregistrement, c'est que tout ça a été inclus dans les évaluations semestrielles, c'est-à-dire qu'il fallait prendre en compte justement le consentement, la manière d'appréhender le patient, etc., dans les évaluations, et que ça, globalement, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas dans celles pour lesquelles elle a été jury. Donc, je remercie beaucoup Sarah-Ève et puis le département de kinésithérapie de l'Université de Grenoble de m'avoir accordé cet entretien. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne rentrée pour les étudiants qui rentrent en IFMK ou dans d'autres études, ou pour ceux qui commencent la vie active ou qui la reprennent. Et je vous dis à bientôt. C'était Victoria pour Féminisanté.